Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par François Nolin.
Aujourd'hui, notre invité est Jacques Essinski, professeur des universités à Paris Sud, physicien des particules. Jacques Essinski, bonjour.
Bonjour. Je précise qu'actuellement, je suis à la retraite.
Merci pour cette précision. Nous vous avons invité parce que vous participez à un groupe de travail de l'Union rationaliste qui étudie comment introduire plus de connaissances scientifiques dans la culture générale des citoyens ou, pour le dire plus brièvement, comment promouvoir une culture scientifique générale. Qui est à l'origine de la mise en place de ce groupe de travail ?
C'est Hélène Langevin, il y a un peu plus d'un an, qui a mis en place ce groupe de travail qui comprend une quinzaine de personnes, des enseignants et des chercheurs depuis le collège jusqu'à l'université. Je précise que parmi nous, certains membres consacrent une fraction assez importante de leur temps soit à la didactique des sciences, soit à l'histoire des sciences.
Quels sont les objectifs de votre groupe de travail ?
Tout d'abord, il s'agissait d'une réflexion sur la place de la science dans la culture générale, c'est-à-dire la place de la science aux côtés, par exemple, de la culture littéraire ou la culture artistique. Et ce travail a ensuite conduit à un rapport d'une vingtaine de pages, dont l'intitulé est « Pour une culture scientifique générale ». Nous aurions pu donner un titre emprunté à Dubellay, nous aurions pu l'appeler « Défense et illustration de la culture scientifique » pour rappeler les plaidoyers de Dubellay à la mi-du XVIe siècle pour la défense de la langue française aux côtés du latin et du grec.
Une culture scientifique générale, oui, mais dans quel but ?
Nous voyons plusieurs buts à ce renforcement de la culture générale. Le premier, peut-être, c'est que il y a aujourd'hui des dizaines de milliers de chercheurs dans des laboratoires dans le monde entier. Et grâce à eux, les progrès de notre connaissance du monde sont très rapides. Je voudrais en citer quelques-uns, simplement pour être concret. Nous connaissons l'histoire de l'univers est reconstituée sur plus d'une dizaine de milliards d'années. Le fonctionnement du cerveau est maintenant peut-être suivi avec beaucoup plus de précision qu'on ne pouvait le faire il y a quelques dizaines d'années. On sait, autre exemple, on sait reprogrammer des cellules banales en cellules souches. Il y a des conjectures mathématiques qui ont été résolues, qui étaient posées depuis des dizaines d'années, voire des siècles. Tout cela fait que ça nous amène à regarder le monde d'une façon nouvelle et une évolution de notre façon de regarder le monde. Et nous sommes amenés aussi à réajuster la position que nous attribuons à l'homme au sein de la nature. Tout cela a des implications philosophiques et il est normal que chacun puisse saisir les enjeux et l'intérêt de ces avancées. Une deuxième raison qui nous pousse à renforcer cette culture scientifique, c'est le fait que l'humanité est aujourd'hui confrontée à des problèmes de très grande ampleur. Je cite l'évolution du climat, les problèmes de nutrition, les problèmes de santé, l'épuisement des ressources naturelles du globe. Tout cela pose des graves problèmes qui ne seront résolus qu'avec plus de science. Ça demande aussi, ça demandera sans aucun doute, des réorientations de mode de vie, des réorientations peut-être aussi de la croissance. Et pour que ces mesures puissent être effectives, il est indispensable que la population les accepte, les comprenne les enjeux. Et pour saisir tout cela, il nous semble indispensable aussi que la culture scientifique du grand public soit renforcée.
Plus de science pour résoudre les grands problèmes du monde, mais aussi beaucoup de politique. Et il me semble que jamais on ne peut séparer l'investissement des scientifiques et des citoyens.
Bien sûr, les décisions finalement seront prises par les politiques. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour que ces décisions, je l'ai dit, qui auront une importance dans le mode même, notre mode de vie, soient acceptées, et si elles ne sont pas acceptées par le grand public, ces prescriptions resteront sans effet. Il est essentiel que tout le monde en saisisse les tenants et les aboutissants.
C'est ça. Et donc l'idée, c'est que l'augmentation de la culture scientifique permette aux citoyens d'avoir une visée plus éclairée du monde.
Exactement. Oui.
Ça, c'est donc le deuxième but poursuivi.
C'est hein? le deuxième but poursuivi. Et le troisième, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai fait allusion aux méthodes scientifiques. Mm-hmm. Pour surmonter ces défis, il est clair qu'il faut les attaquer en faisant appel le plus possible à la méthode, aux méthodes scientifiques. Faute de temps, je ne peux pas détailler ceci, mais plus les problèmes sont complexes, je crois, et plus il faut les aborder avec méthode, avec objectivité, sans a priori. Et tout cela, je crois que c'est ce que la méthode scientifique permet de faire. Et j'ajoute aussi d'ailleurs que les méthodes scientifiques sont utiles et je dirais même irremplaçables, non seulement pour les grands problèmes de ce monde, mais aussi dans la vie courante, professionnelle ou personnelle. Lorsque nous rencontrons certains problèmes, rien de tel que de faire appel à une méthode scientifique.
Donc l'apprentissage des méthodes scientifiques, pour vous, doit se faire très tôt à l'école et plus elles sont transmises tôt, mieux c'est.
Absolument. Les méthodes scientifiques peuvent commencer de bonnes habitudes et une certaine pratique, une certaine familiarité peuvent être acquises dès l'école. Par exemple, de savoir poser un problème, de savoir émettre des hypothèses, de programmer des tests pour valider telle ou telle hypothèse, de critiquer ensuite certaines mesures qui auront pu être faites. Toutes ces choses-là, on peut commencer dès l'école primaire.
C'est en cela aussi que la culture scientifique et philosophique se rejoignent.
Justement, en quoi le but poursuivi par ce groupe de travail dépasse-t-il l'élaboration de recommandations pour l'enseignement au collège ?
Je veux insister sur le fait que ce que nous avons fait, nous ne proposons pas des programmes pour les collèges ou pour les lycées. Notre travail s'est situé en amont de la rédaction et de l'élaboration de programmes. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de proposer de façon concrète l'esquisse d'une culture scientifique en rassemblant, en proposant des repères et en donnant une vue assez globale, aussi globale que possible, les différents champs scientifiques et en montrant quels sont les liens, en mettant en évidence les liens qu'il y a entre ces différents champs scientifiques.
Ce serait comme une aide pour une commission de programme ?
Exactement. Ce pourrait être un document, que nous aimerions même être un document de référence, qui serve à bâtir les programmes depuis le début du collège jusqu'aux premières années du lycée. Et il s'agirait à ce moment-là de reprendre certains thèmes, peut-être, et de les développer. Mais on cherche à donner d'emblée un panorama global de cette culture.
Très bien.
À travers ce document, quel est le public que vous visez ?
Bien entendu, les premières personnes dont nous espérons qu'ils seront intéressés par ce travail, ce sont les enseignants des collèges et des lycées. Mais nous pensons aussi aux nombreux médiateurs, ce qu'on appelle les médiateurs de la culture scientifique, des personnes qui sont responsables ou qui animent des maisons de la culture, qui animent les centres de culture scientifique et technique. Il y a maintenant des maisons pour la science que l'Académie des sciences met en place dans certaines universités pour les professeurs. Et en fait, toutes les personnes qui sont intéressées par la culture scientifique et qui, comme nous, pensent qu'elle est à un niveau insuffisant actuellement, devraient être intéressées par ce travail.
Et aujourd'hui, où en êtes-vous de ce travail ?
À ce jour, un rapport d'étape a été rédigé. C'est un rapport, comme j'ai dit tout à l'heure, de 20-25 pages. Et la phase de notre travail actuellement, il s'agit de diffuser, de faire connaître ce rapport le mieux possible auprès des personnes dont je viens de parler, le plus largement possible.
Pouvez-vous nous décrire quelles sont la structure et le contenu de ce rapport ?
Alors, ce rapport, dans ses premières pages, est un exposé des motifs. L'essentiel du rapport est articulé à un certain nombre de chapitres. Je peux en donner quelques-uns. Par exemple, j'ai parlé de l'énergie et ses diverses formes. On peut parler de la matière et ses diverses formes aussi. Un autre chapitre porte sur l'histoire de la matière et de la vie, qui permet de parler de l'origine de la vie. Et il y a d'autres chapitres, bien sûr. Dans ces chapitres, nous avons des rubriques, ce que nous appelons des rubriques. Je voudrais citer aussi quelques rubriques. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de la symétrie,
les mesures, je crois.
Les mesures, voilà, mesures et incertitudes. Ça, c'est une rubrique que l'on retrouve un peu partout, qui est très utile et qui est utile aussi dans la vie courante.
L'ordre et le désordre.
Voilà, c'est un autre exemple. Ce sont des notions que l'on retrouve dans les différents domaines scientifiques, aussi bien en mathématiques, en physique, chimie, biologie.
Très bien.
Et que souhaiteriez-vous mettre en avant comme spécificité de votre rapport ?
Les spécificités qu'on peut mettre en avant, c'est tout d'abord le fait, donc la prééminence donnée aux méthodes scientifiques. Ensuite, le fait que nous avons abordé ces différentes branches sous une forme aussi globale que possible, en mettant en évidence les relations entre les unes et les autres. Nous proposons un certain nombre de repères qui peuvent servir ensuite à étoffer et développer une culture qui aille plus loin, aller plus loin dans la transmission de la culture.
Et puis des points d'accès, je crois, à l'actualité scientifique.
Alors nous cherchons aussi, bien que cela est encore à développer, à fournir dans ces exposés aussi, oui, effectivement, des points d'accès aux recherches courantes, enfin aux recherches qui sont en cours.
Quels sont actuellement vos moyens de diffusion et comment les étendre ?
Ces moyens de diffusion, tout d'abord, il y a la présente émission, dont on espère qu'elle aura un écho et que nous aurons des retours. Le prochain bulletin de l'Union rationaliste sera entièrement consacré, je pense, à ces questions. Il y aura à la fois le rapport dont je viens de parler et aussi quelques articles complémentaires qui l'illustreront sous d'autres angles.
Les cahiers rationalistes, donc ?
Oui, c'est cela. Nous avons l'intention, surtout, je dirais, de prendre contact avec les associations de professeurs. Il y en a en physique et chimie, il y en a en mathématiques, il y en a en technologie. Et nous espérons qu'ils seront intéressés et qu'ils nous aideront à nous relayer pour faire connaître ce travail auprès des professeurs. Et notre forme, c'est à travers notre site web. Lorsque on va sur la page d'accueil de l'Union rationaliste, il y a un bouton qui s'appelle « Thème ». En cliquant sur ce bouton, on tombe tout de suite sur les pages relatives à cet accueil, à ce rapport. Et il y a la possibilité de prendre contact avec nous ou d'introduire des commentaires. Donc, d'interagir avec les auteurs de ce rapport.
Comment voyez-vous la suite donnée à ce rapport ?
Ben, la chose la plus importante sera certainement de prendre en compte les retours de ces diverses personnes avec lesquelles nous entrerons en contact. Ensuite, nous espérons pouvoir l'étoffer, le compléter en donnant notamment des références, soit à des sites web, soit à des documents écrits, de manière à pouvoir, je dirais, mettre en musique le contenu de ce rapport et peut-être le prolonger cette réflexion sur une formation qui irait au-delà du collège et des premières années de lycée.
Je voulais vous demander, Jacques Aïssinski, si vous auriez une réponse à la question de savoir pourquoi la culture scientifique mobilise moins ces dernières années que d'autres formes de culture, je pense par exemple au commerce, et pourquoi on peine à former des scientifiques, semble-t-il, ces dernières années.
C'est un fait que dans tous les pays du monde, la proportion des jeunes qui s'orientent vers les formations scientifiques est considérablement baissée depuis plusieurs dizaines d'années. La réputation des sciences, c'est d'abord d'être difficile. Mmh. J'ai souvent entendu des élèves ou des étudiants de l'université me dire qu'ils considèrent que les sciences sont plus difficiles que les autres domaines qui sont enseignés à l'université. Je crois aussi que c'est peut-être parce que la science apparaît comme morcelée, comme une juxtaposition de savoirs spécialisés. Et puis peut-être aussi parce que dès l'enseignement qui est donné aux jeunes, aux plus jeunes, la science, et notamment la science la pratique expérimentale, ne tient pas la place qu'elle devrait avoir. Et qu'on devrait habituer, ou en tout cas montrer aux jeunes, leur faire découvrir des choses, les faire réfléchir et leur faire manipuler, faire des choses avec leurs mains. Et je pense que ça développerait leur curiosité.
C'était l'expérience de Sherpa qui est de la main à la pâte.
Voilà, la main à la pâte est la meilleure façon, je pense, d'attirer les jeunes vers les sciences et notamment les sciences de la nature.
Jacques Aïssenski, je vous remercie de nous avoir montré l'importance de la culture générale scientifique, et nous savons à l'Union rationaliste à quel point il importe de mêler ensemble, de confondre les différentes formes de culture. François Nolin, Jacques Aïssenski, je vous remercie. Pour poursuivre la réflexion sur cette culture générale scientifique, je rappelle deux numéros de Raison Présente. Le numéro Culture, Savoir et Compétences, où le colloque de l'Union rationaliste sur la culture et la culture scientifique est consigné. Et puis le numéro 179 de Raison Présente, sur le rapport des arts et des sciences. Et je recommande la lecture du prochain cahier rationaliste, où précisément il y aura le rapport que Jacques Aïssenski, dont Jacques Aïssenski nous a parlé. Je vous dis au mois prochain et je remercie Michel Mestre et Brigitte Mazir qui ont rendu possible cette émission.